Bonjour à toutes et à tous. Plus que quelques jours et c'est Noël. Difficile de manquer cette information, les grandes surfaces et les publicitaires nous en parlent depuis à peu près début novembre. Mais Noël, c'est quand même plus qu'une euphorie dépensière pour avoir ce qu'il faut dans nos assiettes et sous le sapin. Noël, c'est la joie d'être ensemble, c'est le plaisir d'offrir, c'est des joyeux chants, c'est une maison chaleureusement décorée. Il y a aussi la féerie des marchés de Noël, les belles illuminations, les moments de plaisir autour d'une boisson chaude. En réalité, toutes les choses que je viens de citer ne nous rapprochent pas de Dieu. Elles ne nous rapprochent pas de l'essentiel, de Jésus-Christ. Toutes ces bonnes choses viennent troubler notre recherche de Dieu. Et cette affirmation est encore plus forte si vous vous reconnaissez comme non-croyant ou en recherche de Dieu. Ne cherchez pas Dieu sous le sapin ou au fond d'une tasse de vin chaud. Il n'y est pas. Quoi qu'il en soit, je vous l'accorde, Noël, c'est une fête. Et quelle fête ! Nous nous réjouissons du fait qu'un jour, Dieu a décidé de venir lui-même sur terre à la rencontre des hommes. Il est venu pour inviter toute l'humanité à le connaître, à le rencontrer personnellement. Il est venu pour annoncer à tous qu'il est désormais possible de le connaître pleinement et d'avoir une relation saine avec lui. Il y avait le temps des prophètes du peuple hébreu qui encourageaient le peuple à adorer Dieu. Désormais, plus de doute possible, seule la connaissance de Jésus-Christ compte dans la relation entre Dieu et les hommes. Alors, lors de sa venue à Athènes, l'apôtre Paul a expliqué sensiblement la même chose aux Grecs qui le questionnaient. Et nous lirons ce matin ce discours de Paul dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17. Nous regarderons particulièrement sa réponse aux Athéniens du verset 22 à 31. Actes chapitre 17, je commence au verset 22. Alors Paul se leva du milieu de l'aréopage et dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tout égard extrêmement soucieux d'honorer les divinités. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription. À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu, qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas non plus besoin d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toute chose. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu a invité les hommes à le chercher et à le trouver peut-être, comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or, en argent ou en marbre, qui peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice, par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Ainsi a parlé Paul aux Athéniens. Pour la suite de ce message, je vous propose d'avancer de la manière suivante. Regardons d'abord le problème de cette citation détournée. Et l'homme fit Dieu à son image et il vit que cela était bon. Ensuite, par opposition à la volonté des hommes de créer ses propres dieux, nous verrons que nous sommes invités à connaître Jésus-Christ. Nous poursuivrons sur le fait que connaître Jésus-Christ permet d'échapper à la justice de Dieu. Finalement, pour répondre à l'invitation divine, je conclurai en nous encourageant à croire en Jésus et à nous en suffire. Et l'homme fit Dieu à son image et il vit que cela était bon. Cette citation est détournée du récit de la création que l'on trouve dans la Genèse. Par elle, je souhaite résumer ce que Paul critique avec un faux compliment au verset 22. Je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités. Comprenez que dans leur crainte de Dieu, Paul les trouve très, voire trop, religieux, superstitieux. La suite de l'explication va dans ce sens quand Paul mentionne que les Athéniens ont érigé un autel à un dieu inconnu. Les Grecs sont polythéistes, un peu comme les ministres de la Ve République. Ils ont plusieurs dieux avec des responsabilités bien définies. Déléter va être la déesse de l'agriculture, Hermès du commerce, Hadès de la mort. De peur d'avoir oublié un dieu, les Grecs font le service minimum auprès de celui-ci qu'ils auraient oublié. Ainsi, peut-être, sera-t-il indulgent. Tous les dieux dans la mythologie grecque ont été créés par l'homme. Paul fait ce constat aux Grecs que Dieu, l'Éternel, est le créateur de toutes choses. Il est donc le créateur des hommes. Il n'a pas besoin d'eux ni pour exister, ni pour habiter dans un temple, ni pour être servi par des hommes pour combler ses incapacités. Les Grecs ont créé des dieux qui leur ressemblent, des dieux à leur image. Le culte rendu à ces dieux, à responsabilité limitée, empêche de rechercher le Dieu unique, le créateur de toutes choses. Pendant des siècles, l'homme a cru que le soleil tournait autour de la terre. Si vous demandez à ma fille de 3 ans de vous expliquer ce phénomène, elle vous dira qu'en ce moment, le matin, le soleil n'est pas encore levé et que le soir, il va au dodo. C'est une explication anthropomorphique d'une réalité qui lui échappe en grande partie. Dans quelques années, on lui expliquera que nous vivons sur Terre et que c'est un globe qui tourne sur lui-même. L'anthropomorphisme est rassurant. Il permet de donner une explication accessible, cohérente, humaine à un phénomène qui nous dépasse et que nous ne pouvons pas voir et comprendre dans son ensemble. Les Grecs ont fait cela en créant des dieux pour répondre à tout ce qui les dépassait. De plus, accepter la théorie du Dieu unique, tout comme accepter l'héliocentrisme, le fait que nous tournons autour du soleil, relègue la responsabilité de l'homme dans l'univers à un rôle secondaire. Tout comme les Grecs, notre société n'est-elle pas polythéiste? Alors, la science a fait d'énormes progrès ces derniers siècles, et peu de choses échappent encore à son explication. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout a un nom, une description. Ce n'est donc plus sur le domaine de l'explication du réel, du vivant, que nous avons des dieux. Toutefois, dans le domaine des valeurs, n'avons-nous pas fabriqué des valeurs à notre image, en lieu et place des valeurs de Dieu? La joie, l'amour, l'assurance, la sécurité du quotidien, sont des valeurs que nous recherchons à acquérir par nous-mêmes, que nous recherchons dans nos relations humaines. Ce sont pourtant des choses que Dieu nous a promis dans sa relation avec nous. Ces valeurs sont effectivement bien présentes lors des fêtes de Noël. Et c'est une bonne chose. Parmi tout ce que représente Noël, je suis triste. Je suis triste de voir que la seule chose que notre société n'a pas mis en avant pour Noël, c'est Jésus. En ce jour de fête, l'amour de Dieu pour les hommes est devenu l'amour des hommes pour les hommes. La joie de voir Dieu agir en notre faveur est devenue la joie d'être ensemble. Le cadeau de la venue de Jésus pour les hommes est devenu le cadeau sous le sapin. Par cette célébration, nous sommes invités à partir à la recherche de Dieu, à partir en quête de la source des valeurs qui font Noël. Abordons donc dans une seconde partie l'invitation que Dieu fait aux hommes de le connaître. La recherche de Dieu n'est pas une nouveauté. De tout temps, l'homme a recherché Dieu. À l'origine de cette recherche, Paul nous dit que toute la création et toute la régence que Dieu en a est une invitation pour les hommes à le rechercher. Le monde tel qu'il existe, tel qu'il fonctionne, est un monde organisé et non désorganisé. Toute évolution a une cause et rien n'échappe aux règles de la physique, de la chimie et de la biologie. Dans sa recherche à comprendre le monde, l'homme en vient à en rechercher l'origine. Soit l'homme se crée des dieux créateurs et régisseurs. Soit l'homme s'en remet au simple principe de causalité, mais ne se pose pas la question pourquoi. Soit l'homme en vient à accepter l'idée d'un Dieu unique, d'un Dieu créateur et seigneur. Ainsi, l'homme, au travers de la création, peut en venir à rechercher Dieu. Le verset 30 marque une rupture dans le discours de Paul. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Jusqu'à l'époque du discours de Paul, à Athènes, les hommes recherchaient Dieu au travers de sa création, au travers de leur relation, au travers de l'explication du monde. À partir de Jésus-Christ, à partir du premier Noël, ce n'est plus l'homme qui cherche Dieu, mais Dieu qui se révèle aux hommes. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Facebook limite votre nombre d'amis à 5000. Peut-être pas, en fait. Certains sont embêtés. Alors, je ne doute pas du charisme et du sens aigu de la communication de certains, mais j'ai un doute sur le fait que ceux qui atteignent cette limite ont réellement rencontré les personnes en question, qui se disent amis. Et quand bien même, ils l'auraient rencontré, chaque personne, au moins une fois minimum, est-ce suffisant pour parler d'amis? La venue de Jésus permet de passer d'amis de Facebook à amis réels de Dieu. Avec lui, il n'y a plus de filtre dans la relation, par la révélation de Dieu pour son peuple. Il est présent, il s'est fait homme. Il a vécu 33 ans parmi les hommes. Cette révélation définitive de Dieu en Jésus-Christ a une double incidence sur le jugement de Dieu pour les hommes. C'est ce qu'on va voir dans la troisième partie. Il faut connaître Jésus-Christ pour échapper à la justice de Dieu. Il faut connaître Jésus-Christ pour échapper à la justice de Dieu. Paul marque la rupture au verset 30 et annonce que les hommes doivent changer. Le changement qu'il ne mentionne pas aux Athéniens est celui de remettre sa vie entre les mains de Jésus-Christ afin d'obtenir le pardon des péchés. Paul nous dit dans le verset qui suit qu'un homme désigné par Dieu, dont nous savons qu'il s'agit de Jésus, aura la responsabilité de juger les hommes. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, Jésus dit lui-même à son auditoire « en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu, vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. » Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Le Fils de l'homme dont parle Jésus, c'est lui-même. Il nous dit donc qu'au jour du jugement, les hommes ne seront pas plus jugés par Dieu le Père, comme ça avait cours un peu dans l'Ancien Testament, mais par le Fils, Jésus. La justice est au cœur de la personnalité divine et un thème fil rouge pour décrire la relation entre Dieu et les hommes dans toute la Bible. La justice de Dieu est incorruptible. Elle dit que celui qui a désobéi à Dieu doit en subir les conséquences. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ n'auront pas à payer ce prix. Il a déjà été payé par Jésus-Christ il y a 2000 ans environ. Ils accéderont donc à la vie éternelle auprès de Dieu. Alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans ce jugement basé uniquement sur la foi en Jésus-Christ. On commence par la mauvaise. La mauvaise, c'est que le jugement ne sera plus basé sur une compréhension partielle de Dieu, sur le respect des commandements, sur le fait d'être quelqu'un de pas si mauvais. Sans la foi en Jésus-Christ, l'incroyant devra payer lui-même le coût de la désobéissance à la justice de Dieu. Le jugement sera négatif. Jésus sera le juge et jugera uniquement à la lumière de son sacrifice pour les hommes. Rien d'autre ne pourra être argumenté et faire changer d'avis le juge sur la décision à prendre. Ce n'est pas le procès dernier, mais le jugement dernier. Il n'y aura ni possibilité de plaidoyer en sa faveur, ni recours possible a posteriori. Alors la bonne nouvelle, c'est que la foi seule en Jésus-Christ suffit. Autant rien d'autre ne peut remplacer la foi en Jésus-Christ lors du jugement, autant rien d'autre n'est nécessaire pour être acquitté. Tout a déjà été payé par Jésus-Christ. Les croyants seront acquittés de devoir payer le prix de cette culpabilité, car Jésus-Christ est déjà mort à leur place. Avec Jésus-Christ, il n'y a plus de doute possible. Seule la foi en lui comptera. Allons plus loin et n'en restons pas sur une compréhension théorique du discours de Paul. Ce texte nous invite à croire en Jésus et à nous en suffire. Nous sommes invités à croire en Jésus car il est la réalisation du plan global de Dieu pour les hommes. Il est la seule solution pour réconcilier la justice de Dieu et l'imperfection des hommes. Il rendra justice lors du jugement dernier. Il n'y aura pas d'entourloupe, pas de note en bas de page dans le contrat. Il a déjà dit et expliqué sur quelle base le jugement sera fait. Croire en lui, c'est la seule possibilité pour un jugement positif. C'est le temps de Noël. Nous fêtons la naissance de Jésus-Christ. Nous fêtons l'invitation que Dieu a fait aux hommes pour se réconcilier avec lui. Fêter Noël sans la foi en Jésus-Christ, c'est comme être japonais et fêter la Révolution française. C'est comme fêter l'anniversaire d'un parfait inconnu. Noël, c'est bien plus qu'une fête, des cadeaux et un temps en famille. Noël, c'est se réjouir tous ensemble qu'un jour, Dieu a décidé de venir lui-même sur terre pour se révéler aux hommes et pour leur donner la possibilité d'accéder à la vie éternelle. Ce texte de Paul nous invite à nous suffire de Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà tout fait, tout payé. Penser qu'il faut en faire plus, c'est faux. Les Athéniens, eux, pensaient qu'il fallait être religieux pour plaire à Dieu. Ils avaient tort. Le sacrifice de Jésus suffit entièrement à rétablir la relation avec Dieu. Désormais, plus de doute possible. Seule la connaissance de Jésus-Christ compte dans la relation entre les hommes et Dieu. Alors, nous cherchons à être de meilleurs chrétiens, à ne plus pécher, à aimer les autres, à s'aimer soi-même comme Dieu nous aime. Recherchons d'abord la grâce de Dieu. Jésus-Christ, sur la croix, c'est par cette grâce que tout commence. Sans tenir compte de l'amplitude du péché de chacun de nous, Dieu nous invite à le connaître. Le premier pas dans nos efforts pour une meilleure vie de croyant, c'est de le connaître toujours et encore plus. Le reste viendra ensuite. Alors, prenons du temps avec lui et méditons dans notre cœur la grâce sacrifice.